Il est 14 h et comme vous le savez, nous avons des horloges biologiques. Alors, 14 h, la digestion s'en mêle. En général, il y a comme un petit essoufflement, et de ma part sûrement, du vôtre, je n'en sais rien. Un prof qui donne ses cours en vidéoconférence, maintenant, en visioconférence, me disait, ce qui est terrible, c'est qu'on voit les étudiants qui s'endorment, on les voit qui mangent des sandwichs, etc. Et c'est très difficile de ne pas prendre en compte ou de trop prendre en compte la réalité de l'autre en face. Mais le caractère rythmique, pour moi, c'est quelque chose de très important et pas tout à fait assez honoré dans notre société. C'est-à-dire qu'on est vraiment des animaux. Au sens où on a cette horloge biologique qui fait qu'on se lève, on se repose, on dort, on mange, on se relève, etc. On est toujours en alternance sur des pôles. Et c'est un peu toute notre réalité, même psychique, qui est polaire et qui va d'une chose à l'autre, qui essaye d'équilibrer. En marchant, hein, c'est comme le coup du vélo ou d'un sport qu'on pratique. C'est-à-dire que c'est en avançant, qu'on va d'un côté, on va de l'autre. Alors, ce que j'ai dit ce matin sur la responsabilité, c'est exactement ça. Ça ne peut pas suffire, le pôle responsabilité, il est insuffisant pour que ça soit vivant. Si on se braque là-dessus, on en devient fou, on ne sort plus d'une certaine même culpabilité éventuellement, de qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je devrais faire. Alors, en face de ce pôle responsabilité, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait cette affaire de gratuité qui me semble si importante pour des chrétiens, pour des hommes, mais pour des chrétiens. Ça répond aussi à une autre tentation forte de notre époque. La première tentation, celle dont je parlais ce matin, c'était l'insignifiance, électron libre. Se contenter de penser que tout ça, c'est des petits phénomènes de rien et que finalement, rien n'a de sens et ça n'a pas de sens et donc je peux aller dans tous les sens. Ça, c'est malheureusement un peu le ronron qu'on peut entendre à droite à gauche, une espèce de liberté qui est un peu menteuse parce qu'elle ne mène à rien, si ce n'est à l'émotion spontanée, au plaisir déconnecté du sens. Alors, l'autre tentation forte de notre société, au moins occidentale, c'est l'efficacité. N'être qu'efficace, être tout le temps à viser l'efficacité. Et c'est là que la gratuité proprement chrétienne, devient un contrepoison intéressant. J'ai préféré prendre le mot gratuité que le mot de grâce, mais c'est sûr que dans le vocabulaire religieux, le mot le plus chargé de sens dans l'histoire, c'est le mot grâce. Grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses à la fois, à mon avis. Ça veut dire, je prends des choses de ma génération, grâce Kelly, c'est-à-dire la beauté, le cinéma, vous voyez, la grâce, la grâce de la danse, quelque chose qui est en mouvement et qui nous emmène, qui est plus fort que nous, qui nous entraîne aussi. Ça, c'est la grâce. Et deuxième aspect, ça c'est plutôt l'aspect beauté, deuxième aspect, la gratuité. Gratuité, c'est-à-dire, ce n'est pas monnayable. Quoi qu'on cherche à faire, la beauté n'est pas monnayable. Il y a une scène très intéressante dans l'évangile de Marc qui nous parle de cette affaire-là. Elle est bien connue, elle est un peu sordide, on n'en parle pas beaucoup dans la liturgie parce qu'on a l'impression qu'elle déstabilise les chrétiens, les bons chrétiens qui sont venus à l'Eucharistie. Donc c'est la scène au chapitre 6 du festin d'Hérode. Hérode donne un festin pour son anniversaire avec tous les grands de ce monde. Alors c'est du cinéma de bout en bout. Ça intéresse, il y a tous les grands du monde, c'est people, voilà, ils sont tous là. Et puis, il y a la fille de sa deuxième femme, d'Hérodiade, qui vient danser. Donc là, c'est la beauté, C'est une adolescente, elle est belle, elle danse bien. La danse, c'est une sorte de parangon de la grâce parce que c'est tout le corps qui est convié. Ce n'est pas seulement la beauté plastique de la peinture ou la beauté auditive de la musique. Avec la danse, on est très proche d'ailleurs de la sexualité, puisque tout le corps est en mouvement et sollicité pour émouvoir. Et Hérode craque devant cette beauté, et sa réaction, au fond, c'est de vouloir acheter la grâce. Demande-moi ce que tu veux, quoi que ce soit, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Donc là, on voit que la tentation d'acheter la grâce est ce qui fait tout déraper. Ça va se finir avec la tête de Jean-Baptiste sur un plat, comme on sait, parce que la petite fille, elle n'en sait rien, qu'est-ce que je vais demander? Sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste, et puis voilà, ça se finit comme ça. Donc il y a quelque chose d'absurde, quelque chose d'absurde, et cette absurdité est à connecter avec la grâce et le pouvoir. C'est le pouvoir des grands qui est en scène devant nous, c'est la valeur, la tentation d'acheter la grâce, de monnayer ce qui était pur don. Pure beauté. Alors, oui, on ne va pas continuer longtemps sur le festin d'Hérode, parce que l'essentiel de l'évangile, on sait bien que c'est une scène un peu parallèle à l'évangile, annonciatrice de quelque chose qui n'aura sa résolution qu'au moment de la crucifixion. C'est-à-dire que le plus beau des enfants des hommes, ce jour-là, voilà, il est sur la croix. Et lui aussi était venu pour une bonne nouvelle, pour le bonheur des hommes. Il est allé chercher le thème du bonheur aussi comme au centre de sa prédication. Mais il y a eu un dérapage, il y a eu une peur, certainement d'ordre politique en partie, du moins historiquement, c'est ce qu'on pense, qu'il y a eu. Dans les milieux du temple et des gens puissants autour d'Hérode, tentation de museler celui qui échauffait le peuple, en tout cas, qui le faisait espérer monts et merveilles et qu'on ne pouvait pas suivre sans danger dans la situation où on était. La gratuité, c'est toujours il y a un aspect grain de sable dans la mécanique, dans le système. Ça ne sert à rien. Donc, puisque ça ne sert à rien, c'est déjà de trop, ça dérange. Et pour un chrétien, s'emparer de la gratuité à titre personnel, c'est vraiment faire œuvre de liberté et de liberté créatrice. Je donne quelques secteurs comme ça de ce que je mets derrière gratuité. Secteur d'activité. Moi, je pense que c'est bon pour chaque être humain d'avoir un violon d'ingres. Alors, j'ai dit le beau, donc c'est tout ce qui rejoint la pratique des arts, mais c'est évident que la prière est de cet ordre-là. S'adonner à la prière, ça ne sert à rien, faut bien le savoir dès le début, et ça ne vient que déranger un rythme de travail, d'efficacité. On peut toujours faire mieux et faire du bien ailleurs, alors qu'en partant prier, on a l'impression d'être inutile. Donc la prière fait partie de ce registre. Et puis il y a d'autres registres, je pense, la nature pour elle-même, la méditation de la nature, le fait de goûter la nature quand on est dans un lieu qui est beau, il faut lui donner du temps, il faut le regarder, il faut prendre le temps d'observer la nature pour elle-même, parce que c'est un don merveilleux. Donc, on se regonfle soi-même de simplement prendre le temps de cette communion avec la nature. J'ai marqué aussi la cuisine. Bon, ça c'est chacun son dada, mais bien manger, bien faire à manger pour d'autres, partager un bon repas. Alors en ce moment, le Covid nous prive, hein, de ces choses-là, de ces plaisirs, des retrouvailles autour d'une table, mais ça reste essentiel. Il n'y a pas de convivialité sans ce plaisir-là. C'est le signe même de la communion chrétienne, c'est un repas. Donc, au lieu de dire c'est le signe, et puis on a classé ça dans l'intellect, et puis on n'y touche plus, on ferait mieux de réhabiliter nos repas pour que nos repas eux-mêmes soient eucharistiques, plutôt que de vouloir que tout tienne dans une petite célébration totalement ritualisée, sèche, abstraite, dans un lieu moche. Enfin, on peut tout imaginer, mais je caricature. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est toute la réalité rituelle qu'il faut rapatrier dans le champ de ce qui est beau. La ritualité, j'en dis un mot parce que c'est tellement important aujourd'hui. La ritualité, c'est le bébé qu'on a jeté avec l'eau du bain dans les années 70-80. À cette époque-là, faire un acte rituel et surtout un rituel religieux, c'était le signe même de l'aberration. On était dans le non-sens absolu, donc le rite a été très vite suspect. Si c'est rituel, c'est suspect. Et on ne s'est pas rendu compte que les rites, ils étaient pas seulement religieux, mais partout. Le rite, c'est je me lève à 6h25, j'allume la radio à 6h35 et je beurre mon pain grillé en écoutant les nouvelles au flash de 45. C'est du rite pur et simple. Mais sans ce rite-là, ma vie se démolit. Une vie humaine ne peut être que rituelle. C'est le rite qui l'a, c'est le squelette de notre vie. S'il n'y avait pas des week-ends et des semaines, un rythme de travail, un horaire pour manger à peu près tous à la même heure ou à peu près. Voilà, donc, en fait, le rite, il est profondément humain. Il est même, pour beaucoup de chercheurs, de philosophes, il est à la racine de l'humain, au sens où c'est parce qu'on s'est mis à faire ensemble des choses à heure fixe ou à jour fixe qu'on a humanisé une condition de sauvagerie ou d'animalité qui était jusque-là prédominante. Faire du rite, c'est faire ensemble. C'est ça qui commence à être intéressant. C'est qu'il y a de la communion qui se crée autour d'un rite. Autre type de rite qui a remplacé les rites religieux, c'est le rite sportif. Le match de foot, c'est un rite aussi. Enfin, c'est-à-dire, il n'y a rien de plus rituel que le jeu. Le jeu, c'est rituel par excellence. Il faut respecter les règles. C'est une partie, ça dure 45 minutes et puis la mi-temps et puis 45 minutes. Mais on ne va pas changer les règles toutes les 2 minutes, tous les jours. Donc, bien vivre le rite religieux aujourd'hui où il y a une très forte crise de ce rite religieux, ça se fera si ce rite-là reprend sa place parmi d'autres rites humanisants notre vie quotidienne, notre semaine, notre journée. Je pense à un rite qui est complètement tombé en désuétude et qui pourtant est le plus naturel du monde, c'est la bénédiction du repas. Dire « Oh merci mon Dieu, tu me donnes une assiette pleine au moment où j'en ai bien envie », c'est quand même merveilleux. Et c'est quand même tellement bête de ne pas le dire. Alors que même si je suis tout seul dans ma cuisine, mais mon Dieu, mais ah, ça fait du bien, ce steak qui va être bon. C'est déjà un cadeau formidable. C'est ça que j'appelle la gratuité. C'est entrer dans un monde où il y a de la place pour la beauté, pour la contemplation, pour la gratitude. Gratuité, gratitude, oui. Saint Éphrem disait la mesure de la puissance d'un homme, c'est son action de grâce. Ce dont il est capable de remercier, ce dont il est capable d'avoir reconnaissance. Alors, quelles sont dans nos journées les plages dont on puisse être reconnaissant? Voilà. Je suis content, là, il y a quelqu'un qui réagit, c'est très très bien. Maggie qui nous dit « Le monde animal a aussi des rites et des rituels. » Ça, c'est vrai, j'avais vu quand j'étais à l'hôpital une très belle émission sur les colibris, sur Arte. Les parades amoureuses des colibris dans les Andes m'ont laissé un souvenir merveilleux. Donc des rites, il y en a bien sûr. Oui, des rites, ça plonge dans, dans la nécessité de la vie, quoi, hein. Mais certainement que la finesse du rite humain, c'est ce point où ce n'est plus l'instinct qui est à la gouverne, c'est une liberté. Je peux décrocher du rite, ou bien dans le rite, je peux m'abstraire. Je peux brusquement ne plus du tout fonctionner avec cette assemblée chrétienne qui est en train de chanter un cantique, mais il se trouve que ce cantique m'énerve et donc je débranche et je raisonne et je pense à autre chose. Et ça, c'est l'humain. J'ai une liberté à tout moment d'être avec ou de ne pas l'être, hein, de choisir d'entrer dans une communion rituelle ou de m'en abstraire. Et je pense que dans les années 50-60, on a beaucoup vécu ce retrait du rite. C'est-à-dire les choses se passaient, mais dans la tête, on était de plus en plus ailleurs. Pour ne pas être ailleurs, il faut qu'il y ait vraiment de la beauté. Sinon, je ne suis pas du tout provoqué à rester. Je débranche. Enfin, voilà, des réflexions qui me viennent par rapport à beauté, ritualité, voilà, ce monde de la gratuité. Alors, un point important, et je pense important pour la situation qui nous réunit aujourd'hui, se trouver, se donner un espace de liberté et de gratuité effective, bien visible, c'est certainement s'aider à mieux vivre la différence, sa différence. Parce que la culture globale, elle est nivelante. L'élément le plus fortement nivelant de notre civilisation, c'est la technologie. À travers la technologie, on est tous remis à une espèce d'équité, de parallélisme, de mimétisme. Une des scènes les plus communes, mais qui devrait tous nous frapper très fort, c'est quelque chose comme 18 heures dans une gare RER où il y a un changement de ligne, quoi, un croisement de deux sections. Parce que vous êtes ce jour-là absolument dehors et que vous regardez ça depuis un pont un peu dessus, sur une passerelle, vous voyez les fourmis qui sortent du RER. Ça fait des tracés, ça descend dans les escaliers, ça remonte dans les autres, ça arrive sur les quais, ça part dans les voitures, les trains partent, les trains reviennent, les trains repartent, reviennent. Là, on est dans une mécanique absolument incroyable, qui est belle d'ailleurs, enfin, qui a quelque chose de frappant et de séduisant, mais où on se dit, mais les dieux, c'est les trains. C'est pas nous qui les... C'est nous qui les attendons. Eux, ils nous attendent jamais. Les portes, elles se referment quand elles se referment. C'est nous qui sommes dans la dévotion devant des mécaniques absolument insensibles et parfois totalement sans chauffeur, les petits métros là, des villes moyennes ou la ligne 14, j'en sais rien. Mais alors là, on se dit, il y a quand même quelque chose. C'est la mécanique qui mène tout et nous, gagner du temps, pas gagner du temps, dans tous les cas, on ne fera pas attention à moi. C'est à moi de faire attention aux choses. Là, il y a quelque chose qui s'est inversé. Autrefois, la machine, elle devait faire attention à moi parce que sinon, elle était morte. Mais maintenant, c'est moi qui fais attention à la machine, qui va plus vite que moi, qui a pris les commandes, qui dirige les affaires. Je n'ai pas intérêt à faire une bêtise là avec mon ordi pour que la visioconférence continue comme il faut, sinon ça va foirer, c'est moi qui vais être puni. Donc voilà, le respect qu'on doit aux machines, il est nivelant. Il nous met tous dans un degré de, pas forcément de passivité, mais de soumission qui est impératif. Sinon, je ne bouge plus. Si je ne me soumets pas aux machines, c'est fini. Alors, la gratuité, c'est retrouver l'initiative vraiment personnelle, l'espace de la différence personnelle, de la singularité. Personne ne me dicte ce que j'ai à choisir comme activité sportive. C'est de l'ordre de mon bon vouloir, de mon plaisir et de ce qui va me ressembler. Parfois, on se trompe, on peut partir sur des aiguillages qui ne sont pas les meilleurs au début. Et puis, petit à petit, quand même, ça se fait. On est sur le terrain qui nous va, celui de la musique, celui du chant choral, celui de la peinture ou du sport ou de la nature. Voilà. Quand on touche à la gratuité, on n'est pas très loin non plus de la sexualité. J'essaye de m'expliquer. Avec la sexualité, on touche quelque chose qui est de l'ordre au départ du besoin, de l'animal ou de l'instinctif, par exemple. Et puis, on s'ouvre à un infini. C'est l'infini du désir. C'est-à-dire que c'est parasasiant, indéfiniment ou infiniment. Je suis forcément en butte à des limites et à une insatisfaction qui perdure ou qui revient. Et donc, la sexualité dans l'homme, elle aiguise le désir. Elle est là pour que le désir grandisse. Elle n'est pas seulement là pour des fins de reproduction et de perpétuation de l'espèce. Elle est aussi pour la relation entre les personnes et pour que le désir soit en éveil dans l'homme, pour qu'il ait envie de vivre. Donc, on touche effectivement aussi avec la sexualité cette énigme de la beauté qui fait que ben, ce n'est pas par hasard qu'on est attiré, c'est aussi le charme, le soin, la grâce qui font qu'on est attiré vers une personne ou vers une autre. Donc c'est un domaine en connexion et je trouve que c'est important de ne pas laisser la sexualité sans connexion. Sans connexion, c'est-à-dire la sexualité déconnectée de tout le monde des sensations, de tout le monde de la beauté, de toute la gratuité, de toute la splendeur de la nature, voilà, de la prière aussi. C'est peut-être une fausse piste, mais c'est comme ça que moi je comprends. Je suis un peu, Timothée l'a dit, je crois, ou c'était Vincent tout à l'heure, qui disait que j'étais peintre, j'ai toujours fait de la peinture. Donc, ça compte beaucoup pour moi le visuel. Et il me semble que je perçois la sexualité comme la pointe de l'exercice de l'ensemble de nos sens. Nous sommes des êtres sensibles. On a une sensibilité, alors plus ou moins forte selon les personnes dans tel ou tel domaine. L'un sera plus auditif et l'autre plus visuel, ou le troisième, je ne sais pas moi, tactile. Voilà. Chacun a ses propriétés. Mais la sexualité, c'est un peu le couronnement de tous les sens. Quand la sexualité s'exerce au mieux de sa forme, ben c'est tous les sens qui sont convoqués à la fois. Et il y a une espèce de couronnement de la sensualité qu'on appelle aussi sexualité. Donc, il me semble ce qui est dangereux, c'est de couper la sexualité de tout ce registre des sens. De ne pas mettre en relation le beau que je vois. Voilà, il faut que ça reste ouvert. Comment dire ça? Ben, je vous vends à l'avance un écrit qui remonte à 2 ans, mais qui va être publié dans un mois. Là. Un petit recueil, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est petite réflexion sur la sexualité. Ça s'appellera Désir et ça paraît chez Salvator le mois prochain. Donc j'essaye d'expliquer ça, comment du sens et des sens, on est amené à d'abord à découvrir, puis à affiner ce qu'est le monde de la sexualité dans une vie. C'est dans ce sens-là, et vous voyez, le mot sens, il revient avec des sens différents. C'est le sens, l'essence, et c'est le sens au sens signification. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes ces questions-là qui nous sont posées par la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à quoi ça renvoie? Ben, ça renvoie au corps, ça renvoie au sens. Donc on est dans le monde du fini et de l'infini, de la finitude, d'un monde qui justement nous renvoie à nos limites très fortement, mais qui nous convoque à plus. Et pour le chrétien que je suis, ce plus, c'est aussi le monde de l'amour et le monde de Dieu, hein. Un amour qui n'est pas mesquin, qui n'est pas une petite vertu dans un coin, hein, identifié charité, mais qui est une sorte de plénitude de vie qui doit irradier tout l'être, à qui doit, qui peut irradier tout l'être si on lui donne suffisamment d'attention. Alors, la gratuité dans une vie personnelle, c'est un peu l'antidote à la vie caméléon, qui peut être peut être la rançon, enfin, le retour de flamme d'une trop grande responsabilité, c'est-à-dire d'une vie en relation avec de multiples groupes, de multiples échanges, qui font que ben, on est toujours un peu face aux autres et avec les autres et devant les autres et comme les autres. Mais ce domaine de la gratuité va singulariser l'être. C'est ce qui j'appelle mieux vivre la différence, me permettre de ne pas être simplement lambda au milieu d'une société. Et en plus, quand c'est lambda un peu différent, c'est moins facile. Et donc, ben, la beauté peut aider, l'art peut aider, la prière peut aider, le chant peut aider. J'aime beaucoup la métaphore du chant pour parler de la gratuité parce que, et je pense que beaucoup d'entre vous en ont un peu l'expérience, il suffit d'avoir passé, je sais pas, une année, un camp, quand on était jeune, à chanter ou louveteau ou ce qu'on veut, mais l'expérience de chanter ensemble est formidablement enseignante. C'est parce que chanter ensemble, c'est apprendre la communion dans un acte qui dilate, dans un acte de tout le corps, et avec un tempo qui n'est pas celui que je peux donner, c'est celui que je reçois d'un groupe, c'est celui que je reçois des autres. Donc c'est une formidable expérience de dépossession de soi, qui en plus rend heureux. Enfin, quand on a la grâce de percevoir que ça m'a rendu joyeux de chanter avec. Alors, il s'ouvre beaucoup de choses, de possibilités de ne pas posséder justement mon plaisir comme une chose que je fabrique, mais de le recevoir d'une communion, d'une relation avec d'autres. Alors, chanter, c'est aussi l'espèce de signe de la louange qui est une action divine. Qu'est-ce que fait la Sainte Trinité toute la journée? Enfin, toute la journée, façon de parler. Elle loue, c'est-à-dire qu'elle chante, elle se régale. De quoi? D'une joie qui est plus forte qu'elle. Et donc, entrer dans le chant, c'est déjà prendre un peu goût aux choses d'en haut, aux choses du Seigneur. On n'a pas on a non seulement pas d'enregistrement de la voix de Jésus, mais on n'a pas du tout non plus de témoignage sur le fait qu'il ait fait chanter ses disciples. Alors, on chante en église et on sait pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais peut-être que c'est quand même de l'ordre de cette anticipation, hein, le chant des anges. Là, je vois qu'il y a une petite. Oui, c'est très bien. Oui, c'est Guy qui nous dit que le miracle du chant grégorien, qui n'est pas mesuré, c'est que tout le monde doit être en même temps, au même moment, sur le même nœud, hein, et ça arrive de temps en temps, pas toujours, et c'est extraordinaire, oui. C'est vrai que c'est tout à fait remarquable parce que dans la grande tradition du chant grégorien, il n'y a même pas de direction. C'est-à-dire qu'il y a le maître de chœur, un des frères, qui donne le départ, mais il n'y a pas de battue. Alors parfois, il y a de la pneumatique, il y a des mouvements, mais dans la grande tradition, il n'y en a pas. Il a démarré son chant avec un mouvement du livre, et puis après, ben, ça y va. Et la plus belle tradition de ce chant grégorien, mais elle est oubliée aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de livre. C'est-à-dire quand on est complètement dans l'oralité. Et là, on retrouve le chant folklorique avec le par cœur. Et quand c'est le par cœur, ce n'est pas la peine que des gens s'embêtent à battre trop la mesure. C'est vraiment le mot cœur a toute sa place. C'est qu'il y a quelque chose qui. Il y a un rythme qui sort tout seul et qui rejoint les autres. Et puis, bon, on connaît la loi habituelle, c'est de dire. Quand on n'entend pas ses deux voisins en chorale, c'est qu'on chante trop fort. Donc, j'ai connu un vieux frère de chez nous, qui avait été maître de chœur pendant 30 ans, donc ça l'avait un tout petit peu déformé, et il était devenu sourd, il avait plus de 90, oui. Alors je lui demandais, il a une voix très forte, et comme père abbé, je lui demandais de chanter moins fort, parce qu'il gênait tout le monde. Alors il me dit, mais je fais exprès de chanter décalé, sinon je ne m'entends plus. Donc là, c'était sa façon à lui de retrouver sa singularité, mais un petit peu pénalisante pour l'ensemble du groupe. La joie, au contraire, c'est je ne m'entends plus, et pourtant je me donne à corps perdu et à voix déployée. Alors ça, c'est extraordinaire, quand vous êtes dans un ensemble choral suffisamment fort. Quand j'avais 20 ans, j'étais allé chanter dans les chœurs, c'était l'ensemble vocal de l'Armagnac, vous voyez, petite chorale d'Auch. Et on chantait, pour les grandes choses, on était conviés au Capitole. Donc on chantait à la Hallograin avec le chœur du Capitole, et puis je sais pas quoi, une chorale de Castelnaudary, une chorale de Cahors. Donc tout ce monde-là arrivait là pour faire des grands machins, hein, des Verdi, des grands patatras. Donc on était 500. Une fois, je m'étais trouvé comme ça, j'avais un choriste de Saint-Sébastien, du Pays Basque, un Espagnol extraordinaire, qui avait une voix. Et alors, il s'est trouvé que cette fois-là, c'était Michel Plasson qui dirigeait, et c'était un requiem de Verdi. Et il nous avait dit, attention, cette noire-là, je la veux très courte, aucune prolongation, très courte. Or, la tradition était plutôt qu'on faisait une grosse blanche bien lourde. Et quand est arrivé ce passage-là, j'avais mon chantre à côté de moi qui était tellement en forme et qui chantait si fort, et j'ai senti qu'il allait faire une blanche tout seul. Et je lui donnais un coup de coude. Et après, il m'a embrassé en me disant, vous m'avez sauvé la vie. Mais c'est ça, le cœur, c'est qu'on finit par sentir ses voisins comme si on vivait leur vie, quoi. Hein, on est aux aguets de ce qu'ils vont donner, pas donner. Alors là, il y a une dilatation de soi, finalement, plus grand que soi, dans ces moments-là. Donc, expérience du chant. C'est très porteur. Peut-être vous avez des expériences à raconter de ce rapport du corps à la beauté par un des sens qui fait que on investit finalement quelque chose qui peut être de l'ordre de la sexualité, au sens où un dépassement de soi, un au-delà de soi. Un investissement de soi très très vaste et très généreux. Et puis, bah, ça aide à vivre, ça aide à vivre, ça aide à mener le reste de ses activités de façon de façon équitable et rigoureuse. Voilà. Donc, quand on aura bien raboté les couches de vernis du légalisme chrétien, regardé de plus près la belle morale chrétienne élaborée au long des siècles, et qu'on aura relu les évangiles, et ben on revira encore que, tiens, le Seigneur, à travers la bouche de Jésus, nous convoque au bonheur. Il nous convoque d'abord à ça, et c'est par action de grâce que tout le reste peut venir. Les choses s'inversent. C'est parce que, à cause d'une certaine qualité de bonheur, que le bien colore peut-être un peu plus ma vie. Mais ce n'est pas toujours avec du bien à la force du poignet que le bonheur vient. Alors, chant en chorale, chantez faux. Donc, si moi j'étais faux tout le temps. Oui, l'ensemble tend à niveler les imperfections. C'est vrai, mais est-ce que c'est aussi surtout à nous porter chacun à un niveau d'expression où aucun de nous ne peut aller tout seul? Quand on chante un très beau moment du Requiem, alors plutôt de Fauré, et qu'on se laisse prendre dans le tissu du chant, on a très fort ce sentiment que ben, tout seul, ce n'est pas possible. C'est le fait qu'il y ait même ne serait-ce que 30 ou 40 voix ensemble qui se croisent et qui se tissent, a fortiori quand il y a une polyphonie. Et là, donc, on est en quelque sorte décuplé soi-même, porté au-delà de soi. Bon, pour le chant, je vous lis un petit truc. Un petit truc que j'avais mis de côté, voilà, c'est ça. C'est Radcliffe qui raconte ça. Radcliffe fait beaucoup de bien pour aider à vivre. Alors, c'est une histoire japonaise. Il y avait un saint maître zen appelé Akuin. La fille d'un riche pêcheur d'un village voisin devint enceinte et elle en attribua la responsabilité à Akuin. Les villageois se mirent à pester et à vociférer des injures contre lui en l'accusant d'être le père. Akuin se contenta de dire « Vraiment? » Alors, il recueillit l'enfant et prit soin de lui. 18 mois plus tard, la mère avoua qu'en fin de compte, ce n'était pas lui le père. Et les villageois vinrent s'excuser d'avoir détruit la réputation d'Akuin. De nouveau, il se contenta de dire vraiment. Voilà, l'histoire s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit bien, c'est un moine, un saint moine zen. On lui casse la baraque, ah, et puis il fait avec. On vient lui dire, on s'est trompé, vous avez fait le bien, vous étiez dans la juste voie, ah, et il continue comme d'avant. Ça, c'est la gratuité. La gratuité au sens d'une intériorisation qui établit une véritable liberté. Une véritable liberté parce qu'on n'est plus dans le miroir, le regard des autres sur soi, avec ce que ça a de pesant, ce que ça a de lourd, de se voir toujours en situation d'être jugé, bien jugé, mal jugé. Non, vraiment, bon, bah oui, pensera ce qu'on doit penser. Alors, le livre de Radcliffe qui raconte cette histoire, c'est celui sur le baptême. Faites le plongeon. Faites le plongeon, je pense que c'est dans les années peut-être 2010 ou par là, à peu près. J'ai dit que Radcliffe, il aidait bien à vivre. Il a beaucoup aidé les religieux à prendre conscience de la grâce qui était la leur, de la vie religieuse. J'ai beaucoup reçu de la lecture de ses livres. Et notamment avec un point particulier qui rejoint la gratuité, je me l'étais noté là-dessous, c'est un homme qui a bien vu la perversité du système de contrôle permanent qui s'est établi dans la société, et même dans la société religieuse, et même dans l'Église, d'espèce de culture du contrôle qui nous vient des Lumières et qui fait que tout pouvoir, au fond, est un flic, tout pouvoir est un surveillant qui est toujours en train de contrôler, de cadrer, d'empêcher les dérapages. Alors lui dit, bah c'est dans la vie religieuse, c'est exactement le contraire. Le responsable de la vie religieuse, le père abbé d'un monastère ou bien supérieur d'une fraternité, c'est celui qui est chargé d'empêcher que personne ne prenne le contrôle. Voilà. C'est-à-dire de laisser partout des espaces de liberté de façon que on ne referme pas la cour ou le cloître ou le lieu de la grâce. Il prend cette image qui est très forte pour un moine. Vous savez qu'un monastère, ben, il y a le cloître qui est au centre. Alors le cloître, c'est un espace vide. Et puis, il y a une espèce de promenade autour. Alors, il dit, ben, ça, c'est typiquement la situation de la vie religieuse, c'est-à-dire, au centre, il n'y a que Dieu, personne ne doit y aller. Donc, l'important du Père Abbé, c'est de faire la chasse à tous ceux qui voudraient se mettre au centre, c'est de garder le lieu libre. Ben, ça, je trouve, c'est très beau, parce que il écrit, c'est dans le même livre, la responsabilité consiste à assurer que personne ne puisse s'emparer du contrôle, parce que la grâce de Dieu est en tous. Cette vision large, la responsabilité consiste à assurer que personne ne puisse s'emparer du contrôle. C'est une belle mission qu'il donne aux responsables d'église. Ce n'est pas forcément vrai partout, hein, et ce n'est pas facile non plus, forcément, parce que il parle, nous avons besoin de responsables qui aient le courage de laisser les choses se faire, qui est le courage de laisser la grâce imprévisible de Dieu travailler dans notre communauté. Voilà. Le courage de laisser faire, le courage de risquer les écarts, les dérapages, les à côté. Ça fait partie de la liberté, de contrepoison d'une culture du contrôle et de l'efficacité trop rigide et trop rigoureuse. Sur la gratuité, je crois que je vous ai dit à peu près ce que j'avais à en dire, hein. J'ai pas énormément d'autres textes que je veux partager. Donc, on va peut-être arriver 14h47 au moment je sais pas comment ça se passe maintenant, si c'est réaction, temps de questions. C'est peut-être un peu abrupt, vous aimeriez une conclusion.
Non, il n'y a pas de. Enfin, c'est à
C'est pas conclure, hein.
voir si tu veux conclure. Mais est-ce qu'on peut faire une conclusion en
Non,
matière de
c'est
foi,
des pistes, hein. Moi, je ne suis pas venu avec des choses. Je ne suis pas venu avec un système, je suis venu avec des questions moi-même. Et ce sentiment que, puisque vous parliez d'audace, il y avait des pistes. Pour être audacieux, la piste de la responsabilité, la piste de la gratuité. Il y en a sans doute bien d'autres façons d'être audacieux dans la vie. Et donc, c'est là que le débat peut devenir intéressant.
Mais s'il vous plaît, j'arrive pas à utiliser la discussion, là, donc je pose ma question verbalement. Quel est le lien entre gratuité, audace et responsabilité?
Alors, quel est le lien entre gratuité, audace et responsabilité? Bon, je l'ai articulé en disant audace de la responsabilité dans un monde qui vise à l'insignifiance. C'est audacieux d'être responsable parce que le monde nous pousse à nous considérer comme finalement dénués de toute responsabilité. On pense pour vous, donc laissez-vous faire. Et ne vivez qu'à votre échelon. Et moi, je dis non, vivez plus qu'à votre échelon, soyez audacieux, c'est-à-dire entrez en relation, ayez des liens, menez des liens, que ce soit familiaux, sociaux, associatifs, pour que votre vie soit alimentée par les autres et habitée des autres. Et puis, audace de la gratuité, c'est contre la tentation caméléon d'une société hyper technologique où on est tous un peu rendus à la même mise en route, à la même fabrique. Alors, être audacieux parce que libre, parce que gratuit, c'est-à-dire ben, je ne suis pas dans le système, je suis le grain de sable qui fait grincer le système et ça ne me déplaît pas. J'essaye d'en sortir. C'est ça pour moi la gratuité. Ça vous répond un peu?
Oui, merci, c'est un peu plus clair. Oui, c'était surtout gratuité et audace qui m'interpellait. Mm-hmm. Le lien entre les deux.
Merci. Il faut que je lise les questions, mais c'est pour ça qu'il faut que j'ai une minute. Ouais. Oui, la question du contrôle. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle que les abus sont possibles. Est-ce que vous... Oui, on peut retourner aussi l'argument. Parce que le contrôle, quelque part, il a eu lieu, mais il n'y avait pas de parole. Il y a eu du contrôle, il y a eu un responsable qui a statué que l'affaire était close, enterrée, mais on n'a pas écouté. Et on n'a pas écouté la personne abusée. C'est ça que j'entends aussi dans cette question du contrôle. Le contrôle, le pouvoir, il était exercé, mais ce n'était pas un pouvoir qui ouvrait à la parole. Voilà. Et donc, bien sûr, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Oui. Ouais. Vous le dites en disant, oui, l'Église a bien trop cautionné de crimes. Oui. Cautionner, c'est-à-dire mettre le sceau du pouvoir sur quelque chose pour le faire taire. Oui. Alors, une demande de référence que je vois dans les questions, que je donne bien volontiers. Le texte de saint Benoît sur le célérier, c'est le chapitre 31 de la règle de saint Benoît. Chapitre 31, c'est un des chapitres phares hein, de la règle avec le 48 sur le travail et la lecture. Ce sont ces chapitres qui sont le plus souvent utilisés, notamment dans la société séculière quand elle s'intéresse à saint Benoît pour dire qu'il a un certain sens du management. On va souvent chercher ces deux chapitres. Donc c'est 31, oui. Et puis, texte du Siracide et de John Robinson. Alors, le Siracide, c'est, je pense, la parole, le cadeau. Il n'y a pas de don plus excellent qu'une parole bonne. Je ne sais pas la dire, de mémoire, je ne sais plus. Je vais vous dire une bêtise, donc je préfère... Je n'ai pas sous les mains la référence. Et Robinson, son ouvrage le plus connu, le texte que moi j'ai cité sur le fils, la filialité, je l'avais en deuxième citation dans un texte de Jacques Ellul, en fait, L'impossible prière, un texte de 72 de Jacques Ellul qui citait Robinson. Je pense que c'est tiré d'un ouvrage d'exégèse, à proprement parler. Robinson a beaucoup écrit en exégèse, mais il a été peu traduit en français à ce niveau-là. Il est davantage traduit comme théologien. Le livre qu'il a fait connaître, bien sûr en Angleterre et dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France, c'est un livre des années 70, 72 peut-être, qui s'appelle « Dieu sans Dieu » dans la traduction française, « Dieu sans Dieu ». C'était une vision très audacieuse, c'était au moment du Concile, mais dans le monde anglo-saxon, c'est le monde qui a fait un peu exploser la vision chrétienne de la religion. Peut-être, je ne l'ai pas relu récemment, mais peut-être que ça a un peu vieilli depuis. En tout cas, ça avait été un beau pavé dans la mare à l'époque. Alors... Oui, se donner, s'autoriser à accepter la différence, il faut donc s'autoriser au regard critique. Et comment ne pas blesser à notre tour? Comment accepter? C'est déjà, je repense à l'histoire d'Acuin que donne Radcliffe, hein, c'est accepter sur soi que tout le monde ne soit pas d'accord. Donc il faut, c'est exigeant parce que c'est le regard qu'on a sur soi qui est derrière. On est conditionné par ces remarques qui sont faites de l'un, de l'autre. Et donc, cette liberté-là, elle ne se gagne certainement que pas à pas, que de ne pas majorer la prise de parole d'une personne, la critique des autres. Après, s'autoriser au regard critique. Je pense que vous voulez dire ça, s'autoriser à accepter d'être critiqué. Parce que critiquer les autres, ben c'est tellement facile, je veux dire ça c'est. Je n'y encourage pas plus qu'il ne faut, hein. Être blessant à son tour, oui. Et en même temps, ne pas rentrer dans une sécurité totale de la parole. La parole, elle est. Évidemment, elle peut blesser, elle est coupante, elle est comme un glaive à deux tranchants, mais elle est notre moyen de marcher. S'il n'y a pas de parole, il n'y aura pas non plus d'avancée. Il n'y aura pas de prise de conscience, il n'y aura pas de cheminement. Le fond de cette affaire en Église, me semble-t-il, c'est la question du pardon. L'Église est fondée à pardonner parce qu'elle a été elle-même d'emblée fondée sur le pardon. À quel moment Jésus demande à Pierre de devenir le pasteur de son Église? Chapitre 21 de Saint Jean, hein, c'est la dernière scène de tous les évangiles. Eh bien, c'est quand il est au bord de la plage et puis qu'il y a du feu, et ce feu rappelle, il y a des braises, voilà, et ça nous rappelle les braises de la cour du grand prêtre pendant la nuit de la Passion. Jésus demande par trois fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre se rappelle que trois fois, à côté du feu, la nuit de la Passion, il a dit, je ne connais pas cet homme. Le triple reniement, trois fois la question, est-ce que tu m'aimes? Alors, je vais être un peu subtil si on a le temps, vous m'interrompez sinon, hein, mais dans cette scène extraordinaire de est-ce que tu m'aimes, c'est quand même la dernière question qui est posée par Jésus dans l'Évangile. Donc, elle nous est posée à chacun de nous, par Jésus. Bon. J'explicite un peu le texte grec qui est merveilleux. Il lui demande, est-ce que tu m'aimes fort? Avec le verbe agapao, qui veut dire aimer, mais au sens de l'amour de charité, l'amour le plus total. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond, philéo, je t'aime bien. Je t'aime bien, tu es mon ami. Bon. Il répète, est-ce que tu m'aimes fort? Et Pierre dit encore, je t'aime bien. Alors Jésus dit, est-ce que tu m'aimes bien? Oui, je t'aime bien. C'est-à-dire que c'est finalement Jésus qui se met à la hauteur de notre amour. C'est pas lui qui définit la norme. Où qu'on soit dans l'échelle, il viendra nous rejoindre là où on est. C'est lui qui vient et qui se met là où on est et qui dit à Pierre, eh bien, sois pasteur de mes brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis, sois le pasteur. Je te fais confiance. Pourtant, il a eu une réponse d'un petit amour. Il aurait pu dire, bon, ben, ça ne suffit pas, Pierre, tu repasseras l'examen, on se revoit dans 2 ans. Et non, il lui dit, non, vas-y, vas-y, tu vas aider tes frères. Ne peut aider ses frères qu'un frère pardonné. Ne peut aider en Église. À prendre conscience de la grâce de Dieu que celui qui a goûté la grâce du pardon. C'est pareil avec Paul. Qu'est-ce que c'est que Paul? C'est un persécuteur. Ben voilà les colonnes de l'Église, c'est deux qui ont été pardonnés. Donc quand on blesse, ben, il y a quand même une issue, c'est qu'il y a un pardon possible. Voilà, j'étais un peu loin peut-être sur cette affaire de risquer la parole et de risquer la blessure, mais